Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle chronique d'Analyse F1. Alors désolé, pas de podcast ces derniers jours parce que j'étais légèrement malade. Donc je vous prie de m'excuser pour cela, mais je préférais revenir, on va dire, quasiment totalement en forme pour faire un podcast. Et voilà, donc pas d'inquiétude, ce n'est pas à cause de High Speed Dating que ce podcast a mis du temps à venir. High Speed Dating que vous retrouverez normalement demain. En tout cas, c'est l'objectif. Demain, High Speed Dating. Et puis après-demain ou après-après-demain, c'est-à-dire jeudi ou vendredi, un nouveau podcast, une nouvelle chronique tout simplement, dont je vous réserve... J'ai déjà le thème en tête, mais vous verrez ça. Vous aurez la surprise. Je vous réserve la surprise. High Speed Dating, vous savez déjà sur quel pilote ça va porter. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du duo Maldonado-Palmer qui officiera chez Lotus ou chez Renault, hein, qui sait, en 2016. Mais avant de parler de ça, je vais revenir, on va dire, pêle-mêle sur le Grand Prix des États-Unis qui a donc occupé nos yeux et nos oreilles ce week-end. Donc il s'est avéré que c'était un très beau Grand Prix. Finalement, cette saison, on a de la chance, on a vu plusieurs Grands Prix intéressants dans l'eau. Bon, il y a eu des Grands Prix ennuyeux, ça c'est sûr, mais il y a eu quand même... plusieurs grands prix très intéressants, voire des beaux grands prix, des très beaux grands prix. Donc voilà, la F1 est toujours là. Heureusement, on peut s'en féliciter. Donc voilà, et on pouvait s'y attendre à avoir un beau grand prix ce week-end, puisque le déroulé du week-end a fait que les choses se sont emballées pour nous promettre une course incertaine, tout du moins. Et ensuite, ben, les pilotes ont fait le reste pour nous offrir du très beau spectacle. Avec en prime un titre de champion du monde qui a été remporté. Hein. Et si je dis ça, c'est que vous vous doutez bien de qui il s'agit. Puis si vous avez vu le Grand Prix, vous le savez de toute façon. Donc voilà, pourquoi on pouvait s'y attendre ? Parce que on a eu des essais libres sous la pluie, des qualifications aussi, avec une séance d'essais libres qui a été annulée. La course s'est passée sous des conditions mixtes, c'est-à-dire pas non plus les conditions que les pilotes ont connues durant les essais libres et les qualifs. Donc il y a eu les intermédiaires et les pneus slick qui ont été chaussés. Donc voilà, et en plus les conditions sèches, c'était totalement l'inconnu pour les écuries et les pilotes qui n'ont pas pu régler leur voiture en conséquence, de manière parfaite, tout du moins. Donc c'était intéressant pour notamment les monoplaces un peu en dedans par rapport aux autres pour on va dire retrouver un niveau de performance plus proche des écuries de pointe. Ce qui s'est relativement passé du coup avec tout ça. Donc voilà, il y avait aussi Ferrari dans le peloton avec leur pénalité de 10 places due au changement de moteur, à l'utilisation je crois d'un autre jeton pour améliorer la performance de leur unité de puissance. Donc c'était, il y avait ça, les réglages différents. Donc voilà, pour les réglages, il y avait des réglages secs pour certaines écuries qui ont été choisies, des réglages pluie par d'autres. Ça c'est pour résumer, hein, mais il n'y a pas eu que l'histoire des réglages secs-pluie, il y a aussi les réglages selon la morphologie du circuit, c'est-à-dire choisir de mettre plus ou moins d'appui. Bon, ça rejoint également les réglages secs-pluie, c'est un compromis à trouver. Et donc, ben, y a certaines écuries qui ont fait un choix totalement différent par rapport à d'autres, on va en parler. Et on en parle tout de suite, puisque dès le début de la course, on a eu une belle bataille à 4, une belle bataille avec deux Mercedes et deux Red Bull, hein, qui ont été en lutte pendant quand même longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait tout simplement des conditions sèches qui reviennent, puisque les Red Bull étaient réglés pour bien marcher sous des conditions pluvieuses, ou du moins voilà, sous des conditions où il y avait de l'humidité au sol. Et on y a bien vu, hein, la Red Bull n'est pas devenue du jour au lendemain au niveau de Mercedes. Hein, et voilà l'explication tout simplement à cela. Même si le châssis Red Bull est quand même efficace comme toujours, mais bon, c'est surtout le réglage qui en fait la différence. Malheureusement, ça a aussi fait la différence dans l'autre sens, dans le sens où justement, quand il y a eu des conditions totalement sèches, eh bien Red Bull a chuté très loin au classement. Et ça a été très compliqué. Voilà, et donc on a vu pas mal de safety cars, la virtual safety car, des abandons en pagaille, en 8 ou 9, pas mal de batailles un peu partout dans le classement, si bien que des fois la réalisation était un peu à la ramasse. C'est pas la première fois cette saison, et c'est assez décevant de la part de la réalisation officielle de la F1 quand même, qui devrait quand même privilégier les batailles de devant notamment. Et des fois, on a vu qu'en replay, certains, certains trucs. Donc c'est ça, c'est le point noir, on va dire, de ce qu'on a pu voir. Alors, dès le début, pour parler un peu de Rosberg et Hamilton, hein, c'est ce qui est important. Là, j'ai parlé un peu pêle-mêle de ce qu'on a pu voir. Donc, Rosberg, dès le départ, perd le bénéfice de sa pole. Donc, ce qui est quand même très dommage. Et en plus, il la perd encore une fois et en se faisant tasser à l'extérieur du premier virage. Donc, ça fait beaucoup de deuxième fois, voire de troisième fois. Ça montre quoi? Que Rosberg n'apprend pas? Que Rosberg est un peu naïf peut-être également, parce que là sur le premier virage, alors certes Hamilton a été à la limite du correct, on va dire, c'était vraiment pas fair play, ça on peut le dire, c'était pas fair play de faire ça, c'était autoritaire, certes comme il est à l'intérieur du virage, quelque part ça lui appartient, mais voilà, la sportivité voudrait qu'il laisse la place, on va dire, entre la voiture de Rosberg et le hors-piste. Ce qui n'a pas été le cas. Rosberg a fait l'erreur également d'insister. C'est surtout Rosberg en fait qui fait l'erreur, parce qu'Hamilton, on le sait qu'il va faire ça. Et Rosberg le sait. Rosberg le sait qu'Hamilton ne va pas lâcher. Il devrait le savoir en tout cas. Il l'a fait au Japon, il l'a fait à bien d'autres moments également. Rosberg, là, ce qu'il doit faire en étant intelligent, quand il voit Hamilton à l'intérieur, il le voit bien avant l'entrée du virage. Enfin. Oui, bien avant l'entrée du virage, il doit se dire, bon, je te laisse l'intérieur, je te laisse le virage et j'essaye de te croiser. Ou il reste 50 et plus de 50 tours, j'essaye de doubler. Et ben, au lieu de ça, il a perdu 3 places et c'était plus compliqué après. Même si après, quand même, beaucoup plus tard dans la course, il a retrouvé la tête en dépassant Hamilton d'ailleurs. Bon, c'est pas mal de s'être montré agressif, hein, il dépasse les Red Bull, il dépasse Hamilton, ça c'était bien, on se disait, bon, là la victoire de Rosberg, elle est promise à Rosberg, il est plus rapide, il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de chichi. Et bien en fait, à quelques tours de la fin, Rosberg commet l'irréparable. Un peu ce qu'il avait fait à Monza en 2014, sauf qu'à Monza il l'avait fait deux fois, mais bon. C'est encore une grossière erreur de la part de Rosberg qui perd le contrôle de sa monoplace et qui permet donc, ça permet donc à Hamilton de le dépasser et d'enfiler une victoire prestigieuse puisque c'est une victoire qui lui donne le titre de champion du monde, son troisième titre de champion du monde. Il rejoint entre autres Senna, Jackie Stewart, Niki Lauda, etc., etc. Il rejoint pas mal de grands pilotes qui ont trois titres. Et donc voilà, Rosberg, malheureusement, n'aura pas remporté la course. Parce que pour lui, c'est plus que de rester dans la course pour le titre. Parce que la course pour le titre, elle n'existe pas. Hein. C'était Hamilton, il était tout seul, hein, même si mathématiquement c'était pas le cas. On le savait que tôt ou tard, il serait champion du monde là, en fin de saison. Mais Rosberg, il voulait vraiment remporter des grands prix en fin de saison. Et là, s'il n'arrive pas à remporter ce Grand Prix, c'est compliqué, là on peut plus rien pour lui, il a la pole, même quand il retrouve la tête en course et qu'il est plus rapide, il parvient à faire une erreur, c'est dur quand même, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Et ensuite, donc, on a eu le fameux épisode de la casquette et l'épisode du podium de Nico Rosberg, donc ceux qui l'ont vu ont compris, ceux qui n'ont pas vu et qui ont dû quitter, on va dire, leur télévision. Juste après la course, eh bien, je vais vous raconter. En fait, Rosberg, il était vraiment, bon, pas content. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Mais il l'a montré de façon ben, trop expressive, j'ai envie de dire. Il a montré son situation de dominé. Et son langage corporel général ne trompait vraiment pas là, à ce moment-là, avant le podium et pendant le podium. Il s'est montré, on va dire. Il n'a pas voulu faire la cérémonie du champagne, hein, il l'a fait vite fait dans son coin seulement et encore, hein, vite fait, il tirait une tronche de 2 km de long et avant le podium, quand Hamilton lui a, on va dire, lancé la casquette de Rosberg sur les genoux, eh bien Rosberg, au lieu de, on va dire, de ne pas relever, on va dire, ce qui pourrait être apparenté peut-être à de la provocation et encore. Il lui a passé juste comme ça, eh bien, Rosberg a renvoyé la casquette à la figure de Lewis Hamilton de façon assez violente et à son visage, on voyait que c'était vraiment quasi de la méchanceté. Il boudait, il était. Voilà, tout simplement, ça montre qu'il est dominé de partout par Hamilton, que ce soit en piste ou mentalement, et il n'arrive pas à s'en remettre, il n'arrive pas à se montrer digne. Et la dignité, c'est important, je trouve, quand on vient de perdre le titre, quand son coéquipier vient de le gagner. C'est important de rester digne. Certes, au fond de soi, on est déçu. Et voilà. Et là, j'ai un très bon exemple, d'ailleurs, puisque Kate Walker, qui est une journaliste, a écrit un très bon article sur ESPN et en comparant l'attitude de Rosberg à l'attitude de Massa en 2008 au Brésil. Et Massa pouvait être bien plus déçu que Rosberg, puisque Massa, c'est vraiment dans les dernières secondes qu'il a perdu le titre. Et donc il s'était montré très digne et puis voilà, avait rendu hommage à Hamilton et pas de souci, même si au fond de lui il était très déçu et tout. Ça c'est clair, il était très déçu, mais c'était pas la même attitude que celle de Rosberg qui était assez pitoyable, hein, il faut bien le dire. Voilà. Et Alain Prost avait souligné sur Canal+ que le langage corporel de Nico Rosberg depuis maintenant quelques semaines, quelques mois ne trompe pas, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a Hamilton qui s'approche, son comportement, son attitude, son langage corporel change et on voit qu'il est gêné. Mais voilà, s'il n'arrive pas à se détacher un minimum d'Hamilton, bah, il n'arrivera plus à rien. D'ailleurs, cette année, c'est beaucoup moins bien que l'année dernière, hein, pour Rosberg. Voilà, ça c'était un peu on va dire, le court résumé de Grand Prix des États-Unis. Il faudrait parler également de Max Verstappen, hein, quatrième place cette saison. Donc il gratte les points où il faut les gratter. Et c'est un très bon pilote opportuniste. Et il saisit très bien les opportunités avec sa pointe de vitesse et son agressivité. Sa trop grande agressivité d'ailleurs, il faudrait qu'il puisse la canaliser. Hein. J'en reparlerai en fin de saison pour faire son bilan, c'est important. Mais voilà, en tout cas, il marque des gros points. Et voilà, il rentre dans le top 10 quand même du championnat du monde. Et c'est à signaler, il ne les a pas volés ses points. Il a fait une très bonne course aux États-Unis de manière générale. Bon, après, il reste quelques défauts de rookie, mais en tout cas, il a la pointe de vitesse et la capacité à dépasser quand il faut et à saisir les opportunités en course. Il a le sens, il a un sens de la course intéressant. Et McLaren également, très bonne performance, qui a fini avec la 6e place de Button, il me semble, 5 ou 6e. Et Alonso qui a failli finir 5e, malheureusement, sa monoplace l'a trahi, la mécanique l'a trahi. Mais voilà, McLaren, c'est très intéressant de voir Button là également, qui a fait une très bonne course et qui a montré toute son expérience. Il faut pas oublier ce pilote. Ça, c'est clair, hein. Faut pas les oublier, les pilotes McLaren. Après, à voir si la saison prochaine, Honda sera à la hauteur. À voir. Wait and see. Bon, évidemment, le Grand Prix des États-Unis, il faudrait que j'en dise beaucoup plus, hein, que ce que j'ai dit. Mais ça fait déjà une douzaine de minutes de podcast, hein, les amis. Et il faut parler quand même du thème. Hein. C'est déjà un peu trop long, hein, comme résumé. Donc, c'est dire. Il faudrait presque que je fasse des podcasts de résumé de course, ce que je ne veux pas du tout faire. Vous le savez. Si vous voulez un résumé plus complet de la course, je vous invite à écouter les collègues du SAV de la F1. Ils le font très bien, qui font également des résumés des qualifs, etc. Je crois même des essais libres, et qui parlent d'actu également, bon, de manière différente de moi. Donc vous trouverez peut-être votre bonheur en écoutant les deux podcasts. Je sais que certains d'entre vous le font, et je vous remercie pour cela. Hein. Je vous remercie de votre écoute, tout simplement, de votre fidélité. Et de vos commentaires sympas sur les réseaux sociaux et sur PodCloud, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir, tout simplement. Maintenant, parlons du sujet. Oui, ce podcast totalement désorganisé où ça va faire la moitié du podcast résumé du Grand Prix, la moitié du podcast la chronique. Hein, j'en suis désolé. N'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous gêne et j'essaierai d'adapter au mieux. Hein, si jamais c'est gênant que le podcast soit tellement désorganisé, moi ça me gêne un peu. Et vous? Qu'en dites-vous? N'hésitez pas à me donner votre avis sur @F1Analyse sur Twitter et sur la page Facebook d'Analyse F1, également sur PodCloud, bref, tous les moyens que vous trouvez pour me contacter, n'hésitez pas, hein, n'importe lequel. Voilà, donc chez Lotus ou chez Renault en 2016, en tout cas pour l'instant c'est Lotus, eh bien Julian Palmer a été retenu pour prendre le baquet de Romain Grosjean qui est donc parti chez As, comme vous le savez. Julian Palmer, qui est champion GP2 en 2014. Et oui, c'est le champion GP2 en titre, on pourrait dire, vu que la saison 2015 n'est pas finie, même si Van Dorn est champion, a déjà remporté son titre, hein, à l'avance, hein, de champion GP2. Mais voilà, Julian Palmer, le pilote britannique, dont j'ai parlé de lui, hein, dans l'émission consacrée aux champions GP2 et Formule Renault 3.5. Et leur avenir. Donc c'est intéressant, ça actualise un peu justement ce que j'avais dit dans cette émission. Émission, c'était l'émission numéro 8 ou 9, hein, vous la trouverez dans la playlist des émissions. Je redonnerai le lien si nécessaire. Bref, c'est très intéressant de le voir choisi par Lotus avec l'aval de Renault. Renault a donné son accord à Lotus pour prendre Palmer, donc c'est intéressant de le savoir. Parce que si Renault devait scoltiner les deux choix de Lotus et qu'il n'était pas d'accord, ça ferait un peu mauvais genre et ça serait, on va dire, mal parti pour avoir une ambiance de travail correcte. Même si sûrement Renault, quand ils rachètent Lotus, ils vont garder les mêmes employés, donc à peu près. Va peut-être y avoir une petite restructuration, mais il y aura peut-être des têtes connues encore quand même, ça c'est clair. Bref, Julian Palmer s'est mérité quelque part, puisqu'il a fait beaucoup, ben, c'est le champion GP2 de 2014, il a fait pas mal de premières séances d'essais libres cette saison, hein, en remplacement d'un Romain Grosjean assez agacé de la situation d'ailleurs, mais bon, pour Julian Palmer c'était intéressant. Et c'est intéressant en vue de 2016 du coup parce qu'il va pouvoir être rapidement dans le bain. Il a déjà beaucoup de données concernant et d'expérience concernant la Lotus de 2015. Assez pour être rapidement dans le bain et pour pouvoir fournir un feedback intéressant à son équipe et pour pouvoir tout simplement performer comme il faut, enfin faire des bonnes performances. Peut-être battre Maldonado dès le début. Ce sera un objectif, ça sera un très bon objectif d'ailleurs. Et tout simplement, son recrutement chez Lotus est une très bonne nouvelle pour la F1 parce que tout simplement, voir des champions de GP2 ou de Formule Renault 3.5 accéder à la F1, bah, ça fait toujours plaisir à une époque où on se plaint sans cesse, enfin quand je dis on, c'est de manière générale, hein, je ne m'inclus pas dedans, mais on se plaint sans cesse des pilotes payants, que les champions GP2 Formule 3.5, Formule Renault 3.5 ne trouvent pas un baquet. Bref, et là, il en a trouvé un. Donc il faut bien le souligner. Et surtout pour Lotus c'est intéressant parce que le sort accordé à Julian Palmer est totalement contraire à celui qu'ils avaient accordé à Davide Valsecchi. Souvenez-vous de Valsecchi qui il me semble un ancien champion GP2 je crois. À vérifier mais je crois que dans l'émission que j'avais faite j'en avais parlé. Bref et lui Valsecchi au contraire avait été un peu oublié de la part de Lotus et avait claqué la porte parce que d'ailleurs Valsecchi était très, comment dire, ben, n'avait pas été content de la situation. Pour Lotus, parce que j'ai parlé de la situation de Palmer, Palmer peut être très content d'avoir été pris en F1, ça c'est clair, c'est le rêve accompli, maintenant il faut le poursuivre et ne pas se sentir arrivé et surtout pouvoir tenir la pression de la F1. Pour Lotus, qu'est-ce que ça représente d'avoir pris Palmer et d'avoir surtout un duo Maldonado-Palmer? Eh ben, ça veut dire que par défaut, Maldonado se retrouve leader d'équipe. Je laisse un blanc pour que vous digériez cette phrase déjà. Maldonado se retrouve leader d'équipe, donc forcément c'est pas bon quand on a Maldonado leader d'équipe alors qu'il fait, alors que c'est un pilote assez faible, hein, il faut le dire. Heureusement, il a beaucoup d'expérience, donc ce qui est bien, c'est qu'il connaît bien les ingénieurs, bien les mécanos. Je ne sais pas son entente avec eux, mais bon, en tout cas, il a de l'expérience avec ça, avec Lotus, donc c'est intéressant de ce côté-là. Mais du côté du pilotage pur, Maldonado, c'est pas le mieux. Hein. Ça, c'est clair. Enfin, du pilotage en manière générale, hein. Pas de la rapide, de la pointe de vitesse. Hein. La pointe de vitesse, il l'a, hein, mais bon, le pilotage et l'intelligence de course, c'est autre chose. Donc voilà, il faut souhaiter pour Lotus que Palmer prenne vite la mesure de Maldonado, comme je l'ai dit. Ce serait très positif pour l'équipe parce que ça voudrait dire que voilà, Palmer peut accéder à un niveau peut-être pas celui de Grosjean directement, mais un niveau proche de ce qu'était le niveau de Grosjean, voire peut-être le niveau de Grosjean. Il peut nous surprendre, hein, Julian Palmer, à voir. Après voilà, quoi qu'il en soit, ça reste un affaiblissement certain du line-up Lotus. Par rapport à cette saison, hein, où on avait Grosjean qui a fait d'énormes performances, dont un podium. Et voilà, et ça sera un affaiblissement, d'autant plus si Palmer ben, ne s'avère pas dans le rythme, hein, parce que j'ai cité le meilleur cas, c'est-à-dire le cas où Palmer est dans le rythme et tout, arrive à glaner des points, à être plus rapide que Maldonado. Mais si c'est pas le cas, ce sera très difficile pour Lotus de remplir des objectifs, tout simplement. C'est-à-dire, avant le début de la saison, Lotus. Sur le papier, c'est-à-dire sur les bancs d'essai, en soufflerie, arrive à savoir théoriquement les temps qui peuvent être faits, et via les données également, les données en direct obtenues en piste par les pilotes, peuvent savoir les temps optimaux qui peuvent être réalisés, mais s'ils ont deux pilotes pas dans le rythme, eh bien, finalement, ils vont pouvoir lutter bien derrière leurs objectifs. Et ça serait assez triste pour Lotus, hein, qui aurait une monoplace d'un certain niveau, mais malheureusement qui ne pourrait pas accéder à ce niveau du fait des pilotes. Ça, c'est très triste. Ça, quand ça arrive, c'est très triste parce que l'investissement qui a été fait dans tout le développement d'une monoplace, d'une F1, s'avère caduque quelque part. Donc c'est triste. Il faut parler de Maldonado, je parle de duo, je ne parle pas que de Palmer, il faut parler de Maldonado qui reste présent. Et pour Lotus, c'est à la fois un boulet que Lotus traîne au pied, et c'est à la fois leur bouée de survie. Hein. Saisissez bien ce paradoxe, c'est à la fois un boulet et une bouée de survie. C'est assez bizarre, mais je vais vous expliquer la situation, vous la rappelez. C'est tout simplement que PDVSA, qui est le sponsor vénézuélien de Maldonado et qui sponsorise donc Lotus à charge de beaucoup de millions d'euros, eh bien, a déjà payé, PDVSA a déjà payé cet été la moitié de la somme due à Lotus de 2016. Donc voilà, il l'avait déjà fait pour 2015, c'est-à-dire qu'en été 2014, il y avait la moitié de la somme du sponsoring de 2015 qui était fournie à Lotus. Eh bien là, pareil, rebelote pour 2016. Et du coup, ben, vu que c'est le sponsor de Maldonado, le sponsor phare de Maldonado, titre même, qui lui paye son baquet, on peut dire, et eh bien là, c'est vraiment qu'il lui paye son baquet, puisque ça, ce fait-là, ce simple fait, oblige Lotus à garder Maldonado pour 2016, hein, ça c'est clair. Hein. C'est d'une logique implacable. Ou bien ils auraient des problèmes hein, s'ils gardaient pas Maldonado et qu'ils se faisaient payer quand même par PDVSA la moitié de la somme du sponsoring de 2016. Ce serait l'arnaque la plus totale hein, pour PDVSA. Voilà, et ben pourquoi Lotus fait ça, vous allez me dire. Pourquoi Lotus fait ça, demande ça à PDVSA? Ben c'est tout simplement pour survivre. Hein. Vous le savez, Lotus cette saison a eu pas mal de problèmes. Notamment à un circuit, à un Grand Prix, il n'y a pas longtemps, n'a pas eu accès à son motorhome. C'était quand même assez triste. Lotus est dans une situation de pauvreté assez triste. Et du coup, ils sont obligés de faire ça pour survivre. Hein. Si Lotus n'a pas ça de la part de PDVSA, Lotus serait déjà mort et enterré en courte saison. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on en a parlé hein, de Lotus, est-ce qu'ils vont se rendre au prochain Grand Prix, notamment quand c'était pour Singapour, je crois, ou entre Singapour et le Japon, c'était compliqué. Eh bien là, on voit à quel point c'est compliqué. Ils sont obligés de se faire payer en avance par un sponsor, et du coup de garder un pilote, vu que c'est le sponsor titre du pilote. Donc c'est assez bizarre. Et notamment en plus, cette situation n'a pas été favorisée par Renault, parce que Renault met longtemps à se décider à propos du rachat de Lotus, et pendant ce temps, Lotus, les dirigeants de Lotus ont décidé de geler les dépenses le temps qu'ils aient une réponse de Renault, parce qu'ils ne veulent pas dépenser si jamais Renault décide de ne pas racheter Lotus, ce serait une erreur, ils se mettraient à des dettes qu'ils ne pourraient pas rembourser ou ils perdraient tout en tout cas. Et malheureusement, Renault met du temps. Mais Renault essaye de faire office de bouée de survie le temps de leur décision, mais ça met du temps, ça met beaucoup de temps. Et si jamais Renault rachète Lotus, il faut bien dire que pour un constructeur quand même assez historique de la F1, tel que Renault, eh bien le duo, le premier duo lors du nouveau retour de Renault, j'ai envie de dire en F1, pour l'année 2016, eh bien le duo de pilotes n'est pas très sexy pour un tel constructeur. Mais bon, pour une année de retour, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est pas catastrophique, ils vont pas chercher à lutter pour le titre en 2016, hein, ça c'est clair. Ils vont déjà essayer de bien faire les choses pour revenir dans les points régulièrement, je pense, et ce sera déjà pas mal. Et ensuite, en 2017, ils auront une plus grande liberté, parce qu'on parle de Renault. Là, Renault, s'ils reviennent en F1, ils auront les fonds nécessaires. Pour avoir une plus grande liberté en 2017, pardon. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas à être dépendants de PDVSA. Enfin, en tout cas, je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas. Sinon, c'est dommage hein, de voir un grand constructeur revenir pour être soumis à un sponsor. Ça serait dommage. Mais voilà, normalement, le but, ce serait qu'en 2017, il y ait une plus grande liberté. Et si les pilotes ne conviennent pas, eh bien, ils dégageront. Tout simplement, le Renault leur montrera la porte de sortie. Si les pilotes leur plaisent, ils les garderont évidemment, mais je pense que le but à terme de Renault, c'est ensuite d'aller chercher un pilote prestigieux, voire peut-être un champion du monde, pour se créer une image, se recréer une image de marque, parce que ça passe aussi par les pilotes de bien faire voir la marque Renault. Donc, ce serait intéressant. D'ici là, on attend la décision de Renault. J'y reviendrai certainement quand ils prendront leur décision. Mais c'est long, c'est très long et pour Lotus, c'est vraiment très dur à supporter. Bon, espérons que Renault rachète Lotus, parce que si Renault ne rachète pas Lotus, Lotus va survivre, mais pour combien de temps? Je ne parie pas dessus. Hein. Je ne parie pas sur la présence de Lotus en 2016 ou sur une présence pendant toute la saison. Je ne parierai pas dessus, hein, sinon. Mais bon, on verra. Wait and see, comme on dit, hein, comme souvent, comme je le dis souvent dans le podcast d'ailleurs. Et comme promis, voilà, ça a fait moitié de podcast, Grand Prix des États-Unis, moitié de podcast sur le thème de la chronique. Hein. Enfin, j'en suis vraiment désolé. Mais au moins, si jamais vous aviez vu le Grand Prix des États-Unis, vous avez pu passer hein, toute la partie où je parlais du Grand Prix des États-Unis. C'est pas forcément utile de l'écouter, même s'il y a certains points d'analyse quand même concernant Rosberg, notamment, et concernant le week-end de course en général et le fait qu'il y ait un beau Grand Prix. Voilà, c'est les deux seules choses, on va dire, d'analyse qui peuvent être intéressantes. Mais sinon, vous pouvez le passer. Hein. Vous avez vu le Grand Prix, et ben vous passez, comme ça vous avez 13 minutes de podcast. Youpi! Sur le thème qui est mis en titre du podcast. Hein. C'est pas beau ça? Bref. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous demain pour le deuxième numéro d'HSD consacré à Lewis Hamilton, triple champion du monde, désormais. Et donc après, il y aura un autre podcast dans 2-3 jours, comme je l'ai dit, sur un autre thème, un thème d'actualité très intéressant, un thème d'actualité très intéressant qui est revenu. Je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est des pilotes qui ont émis un avis concernant la F1 et ce que pourrait être la F1 dans le futur. Ça a été repris et puis il y a pas mal quand même de grands pilotes qui ont parlé là-dessus, donc c'est important de faire une analyse complète dessus et je n'aurai pas à résumer un Grand Prix, donc je pourrais me faire plaisir pendant 20 minutes, si je puis dire, à ne pas mal interpréter cette phrase. Hein. Ne la reprenez pas dans un montage. Je vous vois déjà en train de sélectionner le passage qu'il vous faut pour faire un montage bien dégueulasse. Bref, je vous donne des idées en fait. Hein. C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon de vous donner des idées comme ça. Je vais le regretter. Bref. À demain et en attendant, vivons notre passion. Ciao. Thank you.